Lorsque nous sommes arrivés au début de l'après-midi, mes chers auditeurs, dans cette grande caserne des environs de Paris, nous étions loin de nous douter des événements qui allaient marquer la fin de cette journée. Mais la gravité du geste accompli par le meurtrier ne devait-il pas souligner, hélas, de façon tragique, l'importance même qu'attache l'étranger, le communisme, les éléments troubles du pays à la solde des agents étrangers, à la constitution de cette légion des volontaires français contre le bolchevisme. Il est 5 heures de l'après-midi et devant la porte de la caserne où nous sommes en ce moment se trouve, vient d'être hissé, un immense panneau tricolore qui porte ces mots « Légion des volontaires français contre le bolchevisme ». Il y a des massifs de plantes vertes qui l'entourent, on a fait toute une petite décoration pour accueillir avec honneur les volontaires qui arrivent nombreux maintenant, répondant à leurs convocations individuelles. Nous les voyons sans cesse arriver, il y a des jeunes gens, des hommes, des officiers, des aviateurs déjà ou encore en uniforme. Toutes les classes de la société semblent être représentées. Des anciens volontaires des brigades internationales qui ont été dupés et trompés par le communisme, mais tous, dès leur arrivée, passent au bureau de recrutement et l'égalité se fait. Ils se présentent là, ils donnent leur carte d'appel individuelle et déjà on les dirige vers leur chambrée où ils devront passer 1 ou 2 jours. Déjà dans un coin de la cour, les corvées de pluches, de pommes de terre et de carottes ont commencé. C'est d'ailleurs très beau de voir ces hommes de tous les âges qui acceptent de leur plein gré, volontairement, et certains, et même beaucoup, je crois, avec enthousiasme, de subir ainsi, quel que soit leur âge, la discipline de l'armée et de partir vers ce front lointain où ils feront flotter enfin le drapeau français. Je vais, si vous le voulez bien, m'approcher d'un groupe d'hommes. J'en aperçois un grand, là, vêtu de bleu, qui porte une brochette de décoration impressionnante et dont le regard plus autoritaire que celui de ses voisins l'impose déjà à leur attention et l'impose à notre attention aussi. Dites-moi, monsieur, quelles sont ces décorations que vous portez ?
Militaire, Croix de guerre de France, 1914-18, Croix de guerre des théories. Ensuite, différentes médailles commémoratives de campagne, médaille coloniale, chevalier Louis Samalawi.
Très bien, ça vous avez combattu pendant la guerre 39-40 ?
J'ai combattu pendant la guerre 39-40. J'ai été démobilisé quelques jours avant l'armistice, d'ailleurs, comme père de famille nombreuse, je suis père de 5 enfants.
Et vous partez quand même, mais c'est magnifique ça.
Par contre, volontaire.
Pouvez-vous nous dire pourquoi vous partez ?
Pourquoi ? Pour que mes enfants aient une existence un petit peu meilleure que celle que j'ai eue, premièrement. Puis deuxièmement, j'estime que si on veut avoir l'estime de nos ennemis d'hier, il faut leur faire voir que nous sommes capables de nous battre aussi bien que lorsque nous serons bien commandés.
Mais c'est tout à fait bien ça. Vous partez comme quoi ?
Sergent-chef.
Très bien, j'espère que les hommes répondront à votre idéal, et je pense que déjà vous avez déjà pris contact avec eux.
Et tous les camarades qui sont là sont dans la même idée que moi, et avec le même idéal que le mien.
C'est magnifique. Je crois que voilà quelqu'un qui a très bien parlé, n'est-ce pas ? Vous êtes tous d'accord ? Mais à l'horloge de la caserne, il est maintenant, mes chers auditeurs, presque 17h30. Au dehors, la foule est immense, contenue par un trop maigre barrage de police. Il y a là des quantités de curieux, et aussi des parents venus accompagner jusqu'à la caserne le légionnaire qui va partir. Dans le soleil, je vois rutiler au dehors les casques des hommes de la garde républicaine, dont un peloton rendra tout à l'heure les honneurs lorsqu'on hissera le drapeau au fronton du portail, tandis que l'autre peloton de la garde, la musique, elle, jouera des hymnes militaires. Nous attendons en ce moment l'arrivée des officiels. Mais voici, arrivant à pied, un peu en avance, et que nous n'attendions pas d'ailleurs, M. Pierre Laval. L'ancien président du Conseil est vêtu de bleu avec sa légendaire cravate blanche. Il est reçu par les chefs de la Légion, par Eugène Deloncle, par Marcel Déat, qui sont là, en uniforme, vous savez, la chemise bleue, le béret noir, la culotte de cheval noir, et qui se tiennent devant les détachements de leurs hommes qui font belle impression par leur tenue, par leur visage où se lie l'idéal, la foi, la décision. M. Pierre Laval s'entretient familièrement avec ces personnalités, avec quelques officiers qui sont venus là l'accueillir également, et nous attendons maintenant l'arrivée de la personnalité officielle qui doit vraiment procéder à l'inauguration, si vous le voulez, de ce centre de mobilisation des volontaires français, c'est-à-dire M. de Brinon. Ah, mais il est juste 17h30, je l'aperçois à l'horloge, et voici M. de Brinon qui descend de sa voiture, accompagné du consul général Schleyer. Ils arrivent à pied, et dès qu'ils se présentent devant la caserne, un ordre retentit.
Gastelot ! Faites, présentez vos armes !
Retentit du son des trompettes de cavalerie française et une certaine émotion s'empare déjà de la foule. J'aperçois de l'autre côté du porche, à l'intérieur de la caserne, dans cette grande cour inondée de soleil, les légionnaires qui sont tous là. Ils sont absolument auréolés par le porche entouré de plantes vertes et au-dessus duquel, dans un instant, sera hissé le drapeau tricolore, le premier que nous verrons en zone occupée depuis l'armistice. Le détachement de la musique de la garde fait retentir les trompettes, toujours, cependant que M. de Brinon serre la main de M. Laval, de M. Déa et des personnalités présentes, mais dans un instant, on va hisser le drapeau. Et maintenant, voici l'heure de la cérémonie d'aujourd'hui, la seule minute d'ailleurs de cette cérémonie qui sera très brève et très simple, mais non sans grandeur. On va envoyer les trois couleurs au fronton de la caserne. Un ordre vient de retentir, deux légionnaires très lentement hissent le drapeau, hissent les tamines tricolores qui flottent dans le vent. Et l'assistance entière est étreinte par l'émotion. C'est la première fois qu'un drapeau tricolore flotte officiellement au fronton d'une caserne en zone occupée depuis l'armistice. La foule éclate en applaudissements. Salue le bras tendu, ce drapeau qui va partir maintenant sur les champs de bataille de Russie, représenter la France. Et comme me le disait tout à l'heure un légionnaire, monsieur, si nous n'avons qu'une chance d'avoir un tabouret à la conférence de la paix, eh bien ce sera nous qui conquérons ce tabouret grâce à ce drapeau tricolore qui sera aux côtés des drapeaux européens là-bas sur le front contre le bolchevisme. Et voici que les légionnaires entonnent la Marseillaise pour la première fois officiellement en zone occupée. D'entendre. Ce sont les voix des légionnaires qui étaient à l'intérieur de la caserne et qui ont entonné eux aussi la Marseillaise avec un petit décalage et dont les derniers mots sont venus s'effondrer sous le porche absolument rejoignant les dernières paroles de la Marseillaise chantées non seulement par les personnalités officielles, par les légionnaires qui forment la garde d'honneur, mais également par toute la foule qui est venue assister à ce départ des légionnaires français sur le front russe. Maintenant, voici que les personnalités officielles pénètrent sous le porche de la caserne et vont effectuer une rapide visite des installations sous la conduite du commandant qui s'occupe de ce centre. Quelques minutes plus tard, la visite officielle est terminée. Elle n'a pas duré bien longtemps, mais cependant, les visiteurs officiels ont pu constater l'ordre parfait qui règne dans la caserne, la belle tenue des légionnaires qui ne sont pas encore habillés, mais dont les regards francs, les beaux regards clairs, trahissent la foi, l'espérance et absolument ce désir de participer à la grande lutte contre le bolchevisme qui anime l'Europe entière à présent. Aussitôt après cette visite, au moment où il va pénétrer sous le porche à nouveau pour regagner la sortie, M. de Brinon, qui est en tête des personnalités officielles, s'avance et je m'approche de lui avec le micro pour lui demander s'il veut bien, je pense dans un instant, me dire quelques paroles sur cette visite. Il est entouré, je le vois derrière, au deuxième rang, par M. Deloncle, par M. Déa, par M. Laval, qui conversent et qui parlent certainement des impressions qu'ils ont ressenties au cours de cette visite. Les légionnaires forment la haie, les acclament. Je m'approche de M. de Brinon.
Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions à la suite de cette visite à la Légion française?
Eh bien, je suis profondément heureux d'avoir fait cette visite. J'ai le sentiment, après tout ce que j'ai vu, que c'est le commencement d'une très grande chose.
Je vous remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Monsieur Deloncle, vous ne diriez un mot à la suite de cette visite également?
Oui. Eh bien, à la suite de cette visite, j'estime que le grand départ est pris et que cette première réunion sera suivie de nombreuses autres. De nombreux contingents, je pense, partiront pour défendre la civilisation sur le front russe.
Merci, monsieur.
Je viens de faire parler M. de Brinon, ambassadeur de France, M. Deloncle. Maintenant, le cortège s'est un instant arrêté pour répondre, pour écouter cette interview. Ça avance à nouveau. Nous avançons sous le porche. Nous nous précipitons. Il y a beaucoup de foule. Je tâche d'avancer avec mon micro. Hein. Mais que se passe-t-il?
Messieurs, un attentat. Il vient d'y avoir un attentat. Un homme avec un revolver vient de tirer sur Laval. Doucement, on vient de tirer sur Laval. Enregistré. Non, je suis un tiré sur la balle.
Hein?
Un homme avec un soldat a tiré sur la balle.
La balle.
Rentrez-moi le fils que tu te rentres, rentrez. Rentre dedans, vite fait. Qu'est-ce que tu fais?
Dehors, là, et a attendu le moment précis où le cortège officiel sortait et a tiré un coup de revolver, 5 coups de revolver, vous les avez sans doute entendus, dans le dos absolument de M. Laval et de M. Déa qui venaient de franchir le seuil. J'ai vu M. Laval avancer encore de 2 ou 3 mètres, porter la main à sa poitrine, entrouvrir son veston et dire « Je suis touché, je suis touché ». Et au même moment, Déa tombait entre les mains d'ailleurs des légionnaires qu'il soutenait. On les emmène en ce moment à toute vitesse vers leur voiture. L'homme qui vient de tirer les 5 coups de feu vient d'essayer de retourner l'arme contre son front, mais un légionnaire a lancé un coup de poing violent sur l'avant-bras de l'homme, qui est un grand type roux qui s'était caché parmi les légionnaires, un grand rouquin que nous avions vu plusieurs fois tout à l'heure dans la cour de la caserne. Il est entouré par la foule, nous hurlons, on hurle autour de nous, c'est épouvantable, je suis serré avec mon micro pris dans la foule. On se demande s'il n'y a pas d'autres assassins qui se trouveraient cachés. Les 5 coups de feu ont retenti avec une violence terrible sous la voûte, vous les avez entendus d'ailleurs. En ce moment, la foule crie à mort, on cherche l'assassin, on essaye de refermer les portes de la caserne sur la foule, les agents de police se précipitent, la foule est assez calme au dehors, ne rompt pas les barrages, on vient d'emmener Pierre Laval qui paraît assez sérieusement touché, le sang coule sur sa chemise, Déa qui paraît également très touché, il y a d'autres blessés, oui, voici le commandant que nous avions vu tout à l'heure qui avait fait la visite, qui est blessé au bras, il passe devant nous en ce moment, il se tient le bras, sa chemise est inondée de sang. Un autre, un légionnaire, qui est là, un jeune légionnaire aussi, est atteint en haut du bras, lui aussi. Son veston est déchiré. Il y a un officier allemand également qui a sa culotte de cheval traversée par une balle, mais il ne paraît pas atteint. La foule crie en ce moment à mort à l'assassin. La minute est épouvantablement bouleversante. Un peu de calme se rétablit maintenant, les volontaires sont unanimes à dire que ce n'est pas un des leurs, c'est un assassin, un communiste, certainement à la solde de l'étranger, qui s'est glissé là pour accomplir son forfait. Mes chers auditeurs, nous allons quitter la caserne après ce drame qui souligne l'importance, on peut le dire, de la constitution de cette légion française contre le bolchevisme, puisque les agents étrangers, puisque les communistes sont inquiets à ce point qu'ils tentent de se venger de cette création unanime de la part des Français, contre ceux qui ont mené le bon combat jusqu'à ce jour, contre ceux qui ont montré la voie, qui peut seul assurer le salut de la France à l'heure actuelle.